Au bout du petit matin, « Va-t'en, lui disais-je, gueule de flic, gueule de vache, va-t'en. Je déteste les larbins de l'ordre et les hannetons de l'espérance. Va-t'en, mauvais gris-gris, punaise de moignon. »
Pascal Paradou.
Ainsi commence le long poème d'Aimé Césaire, publié en 1939, cahier d'un retour au pays natal, poème de jeunesse, pierre angulaire du mouvement de la négritude, écrit pour appeler à la reconnaissance des hommes noirs. Ce poème, c'est Jacques Martial qui le dit, le joue, l'incarne, le porte, le lance sur scène, je ne sais pas exactement quel est le verbe utilisé actuellement au théâtre de l'Épée de Bois. Bonjour Jacques Martial.
Bonjour.
Quel terme vous utilisez ?
Ah, je le porte.
C'est pas
je
mal, porte, porter.
Absolument, cette parole.
Comment un comédien porte un poème ? Puisqu'il ne s'agit pas de théâtre, il s'agit vraiment d'un poème. Et si Césaire a fait du théâtre, je ne pense pas qu'à l'origine, il pensait scène pour ce texte-là.
Non, c'est il ne pensait pas scène, il pensait poésie, il pensait cri, il pensait urgence. Je crois, enfin, pour lui-même déjà, de survivre, de survivre en santé, je pense personnellement qu'il serait devenu fou s'il n'avait pas écrit le cahier. Il y a à peu près toute son œuvre qu'il va développer ensuite. Et porter cette parole, c'est plus qu'un texte, c'est une parole, c'est une pensée, c'est une urgence. C'est pour moi aussi, c'est quelque chose de vital qui m'a habité dès ma jeunesse jusqu'au moment où j'ai pu m'en emparer et faire entendre ce cri, non pas seulement le grand cri nègre, mais l'appel à la survivance, à la résistance, au courage et à la remise au réinvestissement de nos valeurs.
Vous vous souvenez quand vous avez découvert ce texte ?
Oui, je l'ai découvert, j'avais 21, 22 ans, donc on est au XXe siècle.
Mais vous avez à peu près l'âge de Césaire quand il l'écrit.
Absolument, on m'en a parlé, j'en avais vu des extraits, j'avais été un peu fasciné par la langue, pas du tout compris le propos, enfin ça me paraissait très confus tout ça. Et donc j'ai pris ce texte et là ça a été une révélation absolue que je ne comprenais strictement rien. Je ne comprenais pas de quoi il me parlait et en même temps le sentiment profond que ce texte était écrit pour moi. C'est quelque chose, je crois, quand on a la chance de trouver son texte pour un acteur, c'est quelque chose de phénoménal. Donc, immédiatement, une fusion totale avec cette écriture totalement française, hexagonale, universitaire. J'étais encore étudiant à l'époque. Dans cette ambiance-là intellectuelle. Et de la même manière, totalement ancrée dans une partie de moi que je connaissais mal à l'époque, ma partie antillaise, puisque je suis né en région parisienne, mais il parlait des Antilles. Le problème, c'est qu'il parlait d'Antilles que je ne reconnaissais pas. Et il parlait d'une histoire que je ne connaissais pas, dont j'ignorais que nous avions une histoire propre aux Antilles. Donc c'était une sorte de tremblement de terre et de cerveau et le sentiment qu'il fallait que j'en fasse quelque chose.
Mais il vous a fallu du temps pour le comprendre, justement, ce poème. Est-ce que le passage à l'oralité aide à comprendre ? Parce qu'en tant que lecteur, on peut avoir ce même sentiment. Enfin, j'ai pu l'avoir. L'entendre, c'est très différent.
Ben, vous avez employé le mot exact concernant, selon moi, Aimé Césaire, qui est un lettré, un universitaire, un écrivain, un auteur, mais c'est quelqu'un profondément d'une culture de l'oralité. Et accessoirement, la poésie, c'est fait pour être dit, pas seulement pour être lu, ce n'est pas juste une esthétique visuelle. Et dès qu'on s'empare de la parole d'Aimé Césaire, du texte ou de n'importe quel autre de ses poèmes, mais de celui-ci particulièrement, on sent bien qu'on est emporté par une lame de fond, donc une parole active, profondément volcanique, et la compréhension se fait par d'autres chemins que la pure intelligence cérébrale, cerveau droit ou cerveau gauche.
Et puis vous entendre dire ce texte, ça l'éclaire, mais il y a encore des zones d'obscurité dans le texte, mais qui deviennent plus repérables à l'entendre.
Oui, c'est la formation de comédien que j'ai eue avec Sarah Sanders nous disait, je suis d'accord avec elle, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire, c'est de donner à percevoir et à comprendre ce que l'on joue, ce que l'on veut transmettre au public. Donc ce désir de communication, d'entrer en relation, en discussion avec le public, c'est ce qui m'anime. Et pour cela, il faut être compréhensible. Et ma manière de faire du théâtre, c'est d'essayer d'éclairer, en tout cas de donner à comprendre la vision que j'ai, la perception que j'ai d'un texte, d'une esthétique, d'un propos.
J'aimerais bien que vous nous fassiez entendre un autre moment de ce cahier, et pas simplement ces premiers vers que l'on a entendus tout à l'heure, mais nous y reviendrons dans l'émission après avoir entendu TC Quartet, soit Tony Chasseur et ses acolytes qui sortent un nouvel album « Tente à partager ».
J'ai si longtemps rêvé de ce pays lointain que j'ai réinventé ses bruits et ses parfums. Les rythmes d'aujourd'hui mêlés aux sons d'hier scandent ma nostalgie, réchauffe mon hiver. Parfois il volcan et parfois il pleut. J'en connais les beautés, j'en connais les douleurs. Des contes oubliés naissent du souvenir. Entre les pleurs, on se prend à rire. Nous jamais chers, en toute contempt, ni longtemps nous qu'à voyager. Depuis tant en nous qu'à driver, actuellement nous la nous. Mwen pa moun lòt pò, mwen se moun isi. Je suis né loin d'ici, pourtant je suis d'ici. Je reconnais les mots que je n'ai pas appris. Et la voix de sa mère, la voix de l'orphelin, redit les mots qui ont faim. En toute contempt, ni longtemps nous qu'à voyager. Depuis tant nous qu'à driver, actuellement nous la nous griver. J'en dis jour nous qui jambes de l'eau, nous a connaître tout pays. En vieille chanson qu'a dit, moi pas moule l'autre, pour moi c'est moune ici.
Exil sur RFI en avant-première du prochain album de TC Quartet, Exil qui raconte cette nostalgie de la terre natale. Vous connaissez ce sentiment, Jacques Martial, même si vous êtes né en région parisienne?
Oui, je sais ce que c'est que revenir à Paris. Sérieusement, j'aime beaucoup voyager parce que je sais que quand on part, ça veut dire qu'on va revenir. Et j'aime cette idée du voyage comme ça.
Mais c'est Paris ou c'est la Guadeloupe, votre terre natale ?
C'est Paris. C'est Paris, vraiment. Moi, je suis un Parisien invétéré, je le revendique. Et je suis un Antillais invétéré, je le revendique aussi. Mais bon, c'est la question de la langue maternelle. Et ma langue maternelle est le français. Alors, j'essaie de temps à autre de parler créole pour le grand plaisir de tout le monde, de tous les Guadeloupéens. Je les vois sourire et rire avec un bonheur sans partage, parce que mon créole, quand même, remonte les Champs-Élysées ou descend le boulevard de Sébastopol, ça s'entend, ils adorent, mais c'est pas grave, hein, je persévère. Et puis la Guadeloupe qui est profondément ancrée en moi, c'est-à-dire que cette terre-là me régénère. Donc j'ai cette chance d'avoir deux espaces profondément qui me constituent et vers lesquels revenir. Avec là où ma maison se trouve, elle est à Paris, et là où ma terre se trouve, elle est à Gosier.
Au bout du petit matin, dans ce frêle, les Antilles qui ont faim, il y a cette nostalgie chez Césaire, parfois un peu lyrique. Vous dites qu'il est antillais, vous dites qu'il est parisien, Césaire.
Oh, il est antillais, il est martiniquais, il est plus qu'antillais, il est martiniquais. Il ancre toute sa pensée, toute sa poésie dans la Martinique, dans ce petit grain de beauté, dans la mer des Caraïbes. Et c'est à partir de là qu'il observe, comprend, regarde et embrasse le monde. Et c'est profondément ce qu'il nous apprend, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un point de vue, c'est Descartes, il y a autant de... Le centre est partout et la circonférence nulle part, ou Alain Tanner, il y a autant de milieux du monde que de gens qui s'aiment. Et lui, c'est à partir de la Martinique, de ce lieu, qu'il comprend le monde. Et c'est à partir du moment où il est capable de regarder le monde de là où il est, qu'il peut le comprendre, l'embrasser et l'accepter.
C'est un poème, Cahier d'un retour au pays natal, mais c'est un texte très politique, on ne l'a peut-être pas dit assez. Et quand vous parlez du monde, Césaire dit « je suis l'homme juif, je suis l'hindou de Calcutta, je suis l'homme cafre ». C'est-à-dire qu'il embrasse l'humanité, il embrasse le monde, et pas simplement la situation des Noirs à cette époque-là ou des Antillais.
Oui, tout à fait. Il est... Quand il arrive à Paris, la dernière exposition coloniale qui va être vue par près de 50 millions de personnes vient de se terminer à Paris, au Bois de Vincennes, justement, à la Porte Dorée. Et c'est ce monde-là, hein. Joséphine Baker a déposé sa ceinture de banane, comme je dis. Mais de l'autre côté de la frontière, il y a Hitler, il y a les thèses racistes, il y a le rejet du monde, il y a la construction de l'horreur dans le monde, mais déjà en Europe, et c'est baigné, traversé de toutes ces vibrations, ces influences, qu'il commence à rédiger le cahier. Et parce qu'il est une vieille âme et quelqu'un qui regarde le monde, est dans le monde, sa pensée, bien sûr, ne se résume ni ne se réduit à aucun espace. Il a cette ambition-là de comprendre ce qui se passe dans le monde dans lequel il vit.
Césaire écrit ce poème à l'âge de 25 ans à peu près, alors qu'il est en vacances en Yougoslavie, il l'aura beaucoup raconté. Mais le texte connaîtra plusieurs éditions tout au long de sa vie, avec chaque fois une version un peu différente.
Je ne crois pas qu'il s'agisse de corrections, je crois qu'il y a surtout des rajouts, des choses qui ont été insérées. Il y a une sorte de géologie du cahier. Il y a un soubassement, qui est un soubassement ancien, et puis il y a des strates. La strate de l'enfance, la strate de l'adolescence, et il y a eu la strate, si vous voulez, de la maturité. C'est une sorte de coupe géologique de l'homme, c'est un petit peu ça, le cahier, le retour au pays natal, mais je ne crois pas qu'il s'agisse de correction en fonction de critères esthétiques.
Un poème comme une coupe géologique de l'homme, est-ce que vous ressentez cela, Jacques Martial ?
Ah, totalement. Totalement, c'est un voyage dans le temps, dans la géographie, à l'intérieur de soi-même. On y est, bon, je suis ravi de découvrir ce témoignage, parce que c'est très exactement cela. On est dans ce poème, on entre à chaque pas, à chaque page, un peu plus profondément dans un espace que l'on découvre, où l'on découvre les choses.
Vous disiez, jeune homme, découvrir ce texte et n'y rien comprendre. Cela fait 20 ans que vous le portez sur scène. Est-ce qu'en 20 ans, vous comprenez chaque soir quelque chose de plus ou vous entendez la résonance d'un mot ?
Oui, il y a déjà les mots que je préfère dans ce texte, donc je les entends, je les attends avec plaisir. Il y a...
C'est quoi les mots que vous préférez ?
Esthétiquement, tourte de l'effroyable automne où pousse l'acier neuf et le béton vivace. Je trouve ça très beau. Mais il y en a d'autres. Non, ce qui est incroyable, oui, c'est ce voyage, cette descente au plus profond de soi-même. Et pour moi, c'est de cela qu'il s'agit. C'est de me donner rendez-vous avec ce texte parce que chaque fois que je le joue, c'est un rendez-vous qui m'est donné. C'est dans un pays, c'est l'Australie, c'est la Singapour, c'est la Slovénie, la Roumanie, le Portugal. Enfin voilà, ce sont à chaque fois donc des gens qui ont soudain envie, urgence d'entendre ce texte. Et donc, j'ai une grande responsabilité de le leur transmettre et de réussir à leur transmettre ce qui m'anime. C'est pas une représentation de plus. Et là, c'est là ce rendez-vous que j'ai.
La langue de Césaire est quand même très particulière, avec cette question que l'on peut, je pense, légitimement se poser. Est-ce que c'est la langue de son temps, le français de son temps, avec des préciosités qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, ou est-ce que c'est une langue qu'il invente lui-même ?
Alors, il y a un petit peu des deux. Il n'y a aucune préciosité chez Césaire. Il y a le désir que nous cessions de nous penser si intelligents que toute compréhension du monde passe par le cerveau. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à 22 ans, ne comprenant rien, j'avais tout compris du cahier. C'est-à-dire que... Moi, je peux vous expliquer comment on danse le zouk ou la begin. C'est 1, 2, 1, 2. Ça ne fera pas de vous un grand danseur de zouk. Et puis un jour, votre corps va dire « Ah, j'ai compris, c'est 1, 2, 1, 2. » Et soudain, vous aurez on comprend physiquement. Un danseur se rappelle physiquement de sa partition. Et pour moi, la compréhension globale, complète, est physique. Alors, elle passe par l'intelligence, mais elle passe aussi par le corps. Et Césaire, pour nous permettre d'atteindre à des zones que nous ne connaissons pas, parce que les sujets qu'il aborde sont extrêmement graves, sont parfois terribles. Il a besoin que nous lâchions prise avec nos résistances intellectuelles bien construites, habituelles, mais que notre corps perçoive par d'autres endroits. Et c'est en cela que le vocabulaire qu'il utilise est si particulier. Mais aucun mot n'est gratuit. Il n'y a pas un mot gratuit dans ce texte. Et je dirais que même quand on les comprend, quand on en comprend le sens, parce que ce sont des mots rares qu'il utilise, mais c'est encore plus vertigineux.
Alors, un mot qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est le mot final, vérition.
Ouais.
Il a fallu vraiment que je cherche pour comprendre ce que cela pouvait...
En latin.
Oui, en perse en latin, ce que ça pourrait dire. Donc, vérition, l'immobile vérition.
C'est la marque du génie, je vous le dis. Allez, on y va. Quand on arrive à la fin du cahier, on a l'impression d'être un surhomme, d'avoir tout compris, qu'enfin, on peut s'asseoir, ça y est, je suis très intelligent, je suis le meilleur des hommes. Et en fait, comme il le dit quelques vers plus tôt, il faut refaire le printemps chaque jour. On trouve une occurrence du mot « vérition ». C'est dans un dictionnaire de cuisine d'un certain Bria Savarin, que l'on mange volontiers, et qui signifie... Alors, c'est l'expression d'un mouvement tournant de la langue entre les gencives et les lèvres pour attraper les dernières miettes vraiment délicieuses du repas que l'on a apprécié.
Ou voilà. Le bout de salade entre
ou
les dents.
Ou le bout de salade entre les dents, voilà. Et parlant de cette image donc, et de ce mot qui décrit un mouvement, je vais maintenant, j'aurais dû commencer par là, vous donner le vers complet. C'est là que je veux pêcher maintenant la langue maléfique de la nuit en son immobile vérition. Eh bien, on termine par un oxymore. On termine par un oxymore, c'est-à-dire l'immobile vérition, l'immobile mouvement, c'est déjà quelque chose d'assez particulier, mais c'est surtout quelque chose qui nous réveille, c'est-à-dire qu'au moment où on se dit « Ah, enfin, ça y est, je peux me reposer », tac, on est appelé par quelque chose d'encore plus terrible, d'encore plus incroyable, qui nous éveille. On dit « Mais qu'est-ce qu'il a dit, quoi ? J'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est ?» Donc on se réveille, et lorsque l'on comprend le sens de ce mot et que l'on découvre le sens de vérition, on est de nouveau dans cet espace poétique, vertigineux, de l'immobilité d'un mouvement.
Jacques Martial, vous entendre lire un vers, dire un vers est si fabuleux que j'aimerais que vous nous en disiez, lisiez quelques autres, rien que pour moi et les auditeurs.
Partir. Comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serai un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas l'homme famine. L'homme insulte, l'homme torture, on pouvait à n'importe quel moment le saisir, le rouer de coups, le tuer, le... Parfaitement. Le tuer, sans avoir de compte à rendre à personne, sans avoir d'excuses à présenter à personne, un homme juif, un homme pogrom, un chiot, un mendigo. Mais est-ce qu'on tue le remords, beau comme la face de stupeur d'une dame anglaise qui trouverait dans sa soupière un crâne de Hotanto ? Je retrouverai le secret des grandes communications et des grandes combustions. Je dirai orage, je dirai fleuve, je dirai tornade, je dirai feuille, je dirai arbre. Je serai mouillé de toutes les pluies, je serai humecté de toutes les rosées. Je roulerai comme du sang frénétique sur le courant lent de l'œil. Des mots en chevaux fous, en enfants frais, en caillots, en couvre-feu, en vestiges de temples, en pierres précieuses assez loin pour décourager les mineurs. Qui ne me comprendrait pas, ne comprendrait pas davantage le rugissement du tigre.
Extrait du cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, grâce à vous, Jacques Martial. On sent dans ce studio, sans préparation, la puissance que vous apportez et la puissance du texte lui-même.
Oui, j'ai coutume de dire, je suis comédien parce que je ne suis pas chanteur, lyrique. Et finalement, j'ai trouvé mon poème lyrique, j'ai trouvé mon Tristan ou mon Parsifal, ces cahiers d'un retour au pays natal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y aller au rabais, on ne peut pas y aller à l'économie. Il faut beaucoup de moyens pour ne pas s'en servir ou pour pouvoir porter cette parole, parce que c'est une parole qui vient vraiment du fin fond de la terre et qui remonte et qu'il faut envoyer à l'air libre et au ciel.
Mais l'homme que vous jouez seul sur scène, donc au théâtre de l'Épée de Bois, qui, par parenthèse, est un théâtre magnifique dans Paris, à la Cartoucherie de Vincennes, c'est l'un des plus beaux théâtres tout en bois, exceptionnel. Donc l'homme que vous jouez sur scène, est-ce que c'est le poète Aimé Césaire ou cet homme noir, ce nègre grognon, ce nègre mélancolique, comique et laid, comme le dit Césaire, qu'il croise un jour sur le banc d'un métro?
Alors ce n'est pas Aimé Césaire que je joue. Ça a failli être ça, mais ça, finalement on a abouti à autre chose. Le personnage que j'interprète finalement est dans la tourmente dans laquelle était le jeune Aimé Césaire. C'est-à-dire qu'on est à l'intérieur de ce jeune homme au moment où il détruit sa production poétique d'avant parce qu'il trouve que ça ne correspond pas à ce qu'il veut faire, au moment où il est en révolte, au moment où il n'a aucune réponse. Et il va falloir qu'il traverse toute cette poétique, qu'il traverse aussi ses propres lâchetés, ses propres démissions, pour pouvoir se réunir et être lui-même. Et c'est donc ce personnage-là qui entre en scène et qui va tâcher d'arriver à la reconstruction de lui-même, mais sur des bases de vérité, au sens de réalité, c'est-à-dire cesser le mensonge. Le moment, pour moi, qui est un des moments clés du poème, c'est quand il dit « et moi ». Et moi, parce qu'il accuse tout le monde, hein, le racisme, la guerre, l'esclavage, le colonialisme, enfin tout y passe, et il a raison. Et il a raison, les Martiniquais qui ne sont pas des gens comme il aurait aimé qu'ils soient. En fait, il a raison sur tout ça, mais à un moment, il dit, mais et moi, est-ce que j'étais aussi bien que ça tout le temps? Et en fait, c'est l'histoire de cette énorme culpabilité qu'il porte quand il a été parfaitement lâche, lui aussi. Et c'est à ce moment-là qu'il peut reconstruire et devenir finalement le Aimé Césaire que nous connaissons. Donc c'est ce parcours-là qu'on raconte, et le personnage qui entre en scène, et il arrive au moment du basculement, où soit il tombe définitivement dans la marge, la folie, comme ces personnes que l'on croise, qui se mettent à hurler des choses fort sensées, et parfois très esthétiques, mais qui n'ont pas de sens, ou bien il arrive à son humanité, et nous faisons le choix qu'il arrive à son humanité.
Alors nous sommes aujourd'hui, Jacques Martial, le 10 mai, Journée nationale des mémoires de la traite et des esclavages et de leur abolition. Cette journée a été instituée par la loi Taubira en 2001 qui définit l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Petit rappel.
Le Code noir qui déclarait que l'esclave est un bien meuble, qui expliquait que le maître avait le droit à la première fuite de lui couper l'oreille et de le marquer à la fleur de lys, à la deuxième fuite, de lui couper le jarret et de le marquer à la fleur de lys, à la troisième fuite, de le mettre à mort. Ce code noir a séjourné dans le droit français pendant près de deux siècles. Seule une loi solennelle, disant la volonté du peuple français, pouvait contrebalancer et dire très clairement que la France, fidèle à ce qu'elle représente dans l'imaginaire universel, fidèle à sa réputation de patrie des droits de l'homme, la France des Lumières reconnaît aujourd'hui que ce crime qui était légal, qui était officiel, qui était justifié également par des textes ecclésiastiques, ce crime était un crime contre l'humanité et en fait elle fait son travail de nation phare dans le monde en disant la première qu'elle reconnaît, qu'elle se désolidarise de ce crime et qu'elle reconnaît que c'était un crime contre l'humanité.
Que de sang dans ma mémoire, écrit Aimé Césaire, et bien sûr ça résonne avec ce que dit Christiane Taubira quand elle instaure cette loi pour reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité.
Oui, dans ma mémoire sont des lagunes, elles sont couvertes de têtes de mort. Elles ne sont pas couvertes de nénuphars, il le dit, l'exotisme, les Antilles, les doudous, non, c'est un leurre, c'est un mensonge, c'est une histoire violente, c'est une histoire de mort, une histoire de chasse à l'homme, une histoire de chien que l'on lâche pour rattraper ceux qui veulent fuir vers la liberté. Donc c'est une histoire extrêmement violente. Nos belles îles, nos belles terres, nos belles plages sont des plages de douleur légiférée, organisée. Et c'est ce que dénonce Aimé Césaire, c'est ce que cette loi déclarant l'esclavage et la traite des crimes contre l'humanité tâche de réparer. C'est-à-dire, les mots sont terriblement importants, ce sont des actes, ce sont des actions. Dire liberté, égalité, fraternité, ça veut dire quelque chose, ça nous pousse à faire quelque chose, ça nous enjoint de faire quelque chose, et déclarer ce commerce et cette pratique un crime contre l'humanité, c'est soudain lui donner une place dans l'histoire, et nous, êtres humains, de nous rassembler face à ce crime, de faire corps face à ce crime.
Mais depuis cette loi, pour vous, et là je m'adresse à l'ancien président du Memorial Act, l'affaire est classée ou ça reste un sujet brûlant ?
Ça reste un sujet brûlant parce que les conséquences de l'esclavage sont toujours tangibles. Le racisme, si j'ai bien écouté les dernières élections présidentielles, le racisme n'est pas mort. La mise à l'index de l'autre pour question d'identité continue d'exister. Césaire le dit, la carte du printemps est toujours à refaire. On n'en a jamais fini. Et Brecht nous dit, il est encore chaud, le ventre de la bête immonde. Donc non, on n'en a pas fini. Nous devons être vigilants, nous devons lutter à toute force et avec les armes miraculeuses, tant qu'à faire, plutôt que les armes militaires qui tuent, nous devons tâcher d'apporter la vie, d'apporter l'espoir, d'apporter l'effort de l'existence collective. Le vivre ensemble n'est pas un mot, n'est pas un truisme, c'est une action, c'est un projet collectif, et c'est là, c'est en tout cas dans ce projet-là que nous nous inscrivons.
Et d'où l'importance de porter cette parole de Césaire, parce que vous en êtes pratiquement un héritier, enfin pas pratiquement d'ailleurs, vous en êtes de fait un héritier en portant cette parole.
Je me sens tout à fait héritier de la pensée et de ses valeurs, et il le dit mieux que quiconque. Si je trouvais mieux, je dirais autre chose, mais je n'ai pas trouvé quelqu'un qui donne un tel résumé, un tel condensé, un tel précipité et de l'histoire dans ce qu'elle a de plus terrible et de l'espoir dans ce qu'il a de plus lumineux. Et c'est tout de même une grande chance que nous avons que Césaire ait existé et qu'il ait écrit Cahier d'un retour au pays natal.
Merci beaucoup Jacques Martial. Cahier d'un retour au pays natal se joue donc jusqu'au 15 mai au Théâtre de l'Épée de Bois. Et j'insiste, le lieu est magnifique. Quant au texte, il est publié chez Présence Africaine. Merci beaucoup de vive voix. Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Victor Hull à la réalisation, émission à réécouter sur RFI et sur les réseaux sociaux.